simplement la conséquence de l'irruption du péché dans le monde, en fait. Et que, avec toutes les répercussions que cela a depuis le début, et que ça devient de plus en plus complexe aussi pour nous, chrétiens, d'avoir une position, une attitude qui soit à la fois conforme à ce que les Écritures bibliques nous disent, ou en tout cas vers lesquelles elles nous guident, et en même temps d'essayer de comprendre le contexte dans lequel nous vivons. Je suis quand même interpellé ces derniers temps lorsque j'ai entendu des reportages sur le besoin qu'il y a de plus en plus par toute une génération d'enfants qui sont nés avec des techniques de procréation sans connaître leur père et qui, grâce à des tests génétiques qui sont achetés dans d'autres nations, cette pratique est interdite en France, je le rappelle, mais pourtant de plus en plus de Français y ont recours, ce besoin viscéral qu'il y a de connaître son géniteur, en fait. Et avec tout le chamboulement que cela implique aussi au niveau relationnel et aux nouveaux critères de famille qui sont créés. Notamment, je pense à certaines personnes qui se retrouvent être les neveux d'oncles qui sont moins âgés qu'eux, en fait. Et ça, c'est incroyable toutes les répercussions que cela a dans notre société. Et avec un besoin de plus en plus criant d'avoir ce besoin d'aller trouver ses origines. Donc je pense qu'on est au cœur là d'une situation dans le contexte dans lequel nous vivons. Alors soit nous allons nous retrancher derrière nos convictions, nos églises respectives en se disant oh là là, dans quel monde terrible nous vivons et avoir une mentalité de retranché, ou alors nous essayons d'être présents dans ce monde et comme le Christ l'a dit, d'être sel de la terre et lumière de ce monde. Alors comment? C'est pas simple, mais cela n'était pas non plus pour Jésus-Christ lorsqu'il est venu au temps où il est venu, et j'y viendrai à la fin. J'aimerais commencer en fait mon intervention avec un retour aux Écritures bibliques, parce que figurez-vous qu'en les lisant de façon tout à fait honnête, il y a question de technique de gestation pour autrui et d'une forme de PMA. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais je vous propose de relire les textes bibliques, notamment l'exemple dans le texte de Genèse chapitre 16, à partir du verset 1. Sarai, la femme d'Abraham ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. » Et en fait, il est tout à fait intéressant de constater que dans les Écritures, il y a de nombreux cas de stérilité. Et que cette stérilité, elle est bien présente dans les Écritures, et donc que c'est pas un problème récent. Et je suis quand même travaillé par cette question de la stérilité dans les Écritures, et certaines personnes ont choisi d'avoir recours à la gestation par autrui, pour avoir un enfant, et c'est le cas de Sarah. D'autres, par contre, ont fait confiance pleinement à Dieu pour obtenir l'enfant qui leur avait été promis, et je pense notamment à Anne, qui a eu Samuel plus tard. Mais pour Sarah, en fait, la promesse de Dieu ne se réalise pas, et donc elle dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Donc il est bien question d'avoir une gestation pour autrui, hein. C'est « Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est intéressant de voir, en fait, que ce n'est pas une solution idéale, parce qu'il y a des questions tout de suite de relations qui deviennent faussées, entre Sarai et Agar, qui est la mère porteuse, en fait. Donc on voit que ces pratiques-là ne sont pas satisfaisantes, même dans les Écritures, et même si c'était quelque chose qui était pratiqué à l'époque, et qui était normal. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi, c'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. » Traite-la comme tu la jugeras bon. se renvoie la balle, hein, en fait. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi. Alors Sarai maltraita Agar de sorte qu'elle celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Ce que je trouve intéressant, c'est que le Seigneur lui-même vient au secours d'Agar qui est repoussée par sa maîtresse, en fait. Donc on voit déjà toute la compassion de Dieu qui s'étend au-delà de ce que l'on pourrait estimer raisonnable. Mais voyez, cette question de cette gestation pour autrui, dans le cas de Sarai et d'Abraham, elle sème la pagaille dans le couple, dans les relations, et que ça a des conséquences. Puis bon, après, je ne vais pas aller plus loin, mais vous relirez ce texte-là. Donc simplement ce premier texte, et puis le deuxième qui se trouve dans Genèse au chapitre 30. Je vais assez vite parce que le temps est court, mais c'est la question des femmes que Jacob a eues, donc Léa et Rachel. Et on voit très bien qu'à partir du chapitre 29, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Donc on voit qu'il y a de nouveau une question de stérilité dans l'histoire. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Hein, on voit qu'il y a quand même une attitude revanchouillarde dans l'histoire, hein, de dire, moi je suis pas aimée, donc voilà, c'est une rivalité entre Léa et Rachel. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, cette fois je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. C'est quand même radical comme. C'était pas un long fleuve tranquille dans la famille de Jacob. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Elle dit, voici ma servante Bilha, aie des relations avec elle, qu'elle mette au monde un enfant sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils, que par elle j'ai aussi des fils. Elle lui donna pour femme sa servante Bilha, et Jacob eut des relations avec elle. Bilha tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il m'a écouté et m'a accordé un fils, c'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilha, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. Là, c'est vraiment clair, hein? On se bat par enfant interposé pour dire, maintenant, voilà, c'est moi qui vais gagner dans l'histoire. Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante. Donc, vous voyez, c'est infini cette histoire-là. Enfin, je ne vais pas aller plus loin dans la lecture de ce texte, mais tout simplement pour nous donner le contexte, en fait, de cette gestation pour autrui dans cette famille-là, qui finalement n'a fait que semer des rivalités. Et on le voit même après avec les fils de Jacob devenus grands. Cette rivalité, elle a toujours été là, finalement, et que ce n'est pas simple. En fait, tout ça pour vous dire, je remercie le Seigneur pour l'honnêteté de sa parole, où il est question de ces choses-là aussi dans les Écritures, et ça remonte très loin. Alors ça, ce serait la gestation pour autrui, même si ce n'est pas tout à fait celle que nous entendons aujourd'hui. Mais je voudrais parler aussi d'une forme de PMA, et je la définirais plutôt comme étant une procréation divinement assistée. C'est la PDA, en fait. Et là, je lirai le texte de Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Marie, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Bonne question. Comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Donc Marie, légitimement, se pose la question. Comment est-ce que c'est possible? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous, ça ne nous choque pas aujourd'hui, mais j'imagine que Marie, n'ayant jamais entendu parler de technique de procréation divinement assistée jusqu'à cette heure-là, a dû se poser des questions et s'interroger sur la manière dont ça allait se produire. Et la réponse est tout aussi énigmatique, hein, parce que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais le texte se limite à nous dire cela. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est quand même intéressant que dans les Écritures, nous avons quelques textes qui font référence à des pratiques qui, en raison d'une stérilité ou alors d'une destinée tout à fait spécifique pour le cas de Marie, font qu'il y a un recours à une autre manière d'avoir des enfants. Dans la première, dans les textes du Premier Testament, comme je viens de le dire, on voit que c'est problématique et que ça crée des tensions, que c'est pas satisfaisant et que c'est pas optimal. Mais comme ça ne l'est pas encore aujourd'hui pour tous ceux qui parmi nos concitoyens ou parmi nous-mêmes pourraient avoir recours ou avoir eu recours à la gestation pour autrui ou à la procréation médicalement assistée. Donc tout cela, je dirais, ce sont simplement les conséquences du péché hein, de Genèse 3 qui est entré dans le monde et avec tout le chaos que cela amène. Et je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit et sur quoi que ce soit. C'est simplement un constat. Et que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes là en tant que corps de Christ, famille de Dieu, et nous devons nous interroger légitimement sur la manière d'être porteurs d'une espérance dans ce contexte-là, d'une parole de grâce, mais tout en affirmant aussi nos convictions et notre positionnement. Et ce n'est pas simple. Et ça le deviendra de moins en moins, en fait. Parce que la complexité de la vie dans laquelle nous sommes, des choix qui sont faits dans notre nation et dans d'autres nations, nous interpelle et nous interroge. Alors, j'aimerais passer après cette relecture rapide de quelques textes des Écritures bibliques, j'aimerais vous communiquer, en fait, la position qui a été prise par les évangéliques concernant donc l'assistante médicale à la procréation. Alors, je voudrais aussi faire une petite parenthèse, c'est que on ne peut pas dire que les évangéliques, c'est ça ou ça. j'ai oublié de le dire au début pour me présenter, mais je suis aussi chargé de mission du développement territorial des pôles fédératifs de la Fédération protestante de France. Donc la Fédération protestante de France, c'est l'organisme officiel qui rassemble la majorité des protestants en France, et ils comprennent à la fois des églises luthéro-réformées et des églises évangéliques. Et dans les églises évangéliques, il y a une très grande diversité. On ne peut pas dire que tous les évangéliques sont les mêmes, parce que vous avez des évangéliques qui se rapprochent plutôt des luthéro-réformés, et vous avez des charismatiques extrêmes. Donc voilà, c'est ça la famille protestante également. Donc là, c'est une prise de position qui a quand même été prise de manière consensuelle pour dire une position évangélique par rapport à toutes ces questions-là. Alors, il y a notamment deux organismes en France qui représentent de manière plus spécifique les évangéliques. C'est le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, mais qui n'est pas l'équivalent de la Fédération protestante de France. Et vous avez aussi le Comité protestant pour la dignité humaine, le CPDH, qui essaie de faire valoir une prise de position évangélique pour les sujets de la société, quels qu'ils soient. Donc, en fait, j'aimerais lire avec vous la prise de position, donc, une contribution évangélique aux États généraux de la bioéthique. Alors, pour les protestants évangéliques, comme pour l'ensemble des protestants, le mariage ne crée pas un droit à l'enfant, qui doit rester un don à accueillir et non un dû. Et je crois que c'est important de le poser C'est une remarque tout à fait pertinente. Il ne s'oppose pas à l'assistance médicale à la procréation tant qu'elle reste une aide médicale visant à rétablir la fécondité d'un couple stable, homme et femme, avec leurs propres gamètes et respecte le caractère humain de leurs embryons. Donc je trouve qu'on se rapproche quand même beaucoup de ce que vous venez d'exprimer aussi au niveau de la position de l'Église orthodoxe. Il souhaite cependant que tout soit mis en œuvre pour éviter la création d'embryons surnuméraires et demande à ce que ces techniques ne brisent pas les liens humains et le principe de responsabilité envers les générations futures. Ils sont en revanche opposés à la fabrication d'enfants pour répondre aux aspirations d'adultes qui n'offrent pas ce cadre naturel et considèrent que l'État n'a pas à prendre en charge, y compris financièrement, tous les désirs d'enfants. D'autant plus quand ils vont contre l'intérêt de l'enfant et de la société en privant volontairement des enfants de père. Ils estiment que ni des souffrances individuelles, ni le fait que la loi soit enfreinte ne justifie de supprimer l'encadrement légal actuel de l'assistance médicale à la procréation qui protège l'intérêt de l'enfant et cette procréation de dérive marchande. Ça a été aussi évoqué par Julia. Donc, c'est ces dérives marchandes qui sont quand même aussi en perspective. Enfin, il considère que l'ouverture de la PMA aux couples de femmes est un pas supplémentaire qui conduira à accepter la pratique de la GPA en France. Alors, un état des lieux, en 2015, 145 255 tentatives de PMA ont été enregistrées. Cette même année, 24 839 enfants sont nés vivants, issus d'une PMA. Ces enfants représentent 3,1% des nouveau-nés. Ce taux est en légère augmentation par rapport à 2010 et 2013 et 2014. Et parmi ces enfants conçus par la PMA, 5% sont issus d'un don. Malgré l'augmentation constante des dons d'ovocytes en France, il y a 549 donneuses en 2015 contre 420 en 2012. Le nombre reste insuffisant pour satisfaire la demande. Donc là, on voit aussi qu'il y a une demande importante, mais qu'il n'y a pas suffisamment de donneurs en fait pour pourvoir. Selon l'Agence de la biomédecine, 900 donneuses supplémentaires seraient nécessaires pour répondre aux nouvelles demandes. Alors la PMA, du soin à une médecine de désir. L'assistance médicale à la procréation, ou la PMA, se désignait à l'origine l'ensemble des techniques d'aide médicale à la procréation proposées pour pallier à l'infertilité involontaire d'un couple. Dans sa forme la plus simple, elle pouvait alors constituer une simple assistance technique, se substituant provisoirement à un processus naturel de reproduction, ne posant aucun problème éthique majeur, en particulier pour les protestants évangéliques, tant qu'elle s'inscrivait dans une aide médicale à la procréation d'un couple stable, homme et femme, en respectant le caractère humain de l'embryon. La procréation d'embryons surnuméraires a pour eux, pour les chrétiens évangéliques, un effet déshumanisant. Et c'est pourquoi nous sommes favorables à toute solution qui permettrait de l'éviter, comme par exemple la congélation d'ovocytes. Mais l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe et à l'adoption et à la filiation a logiquement créé chez certains de ces couples le désir d'accéder eux aussi à l'aide médicale à la procréation. Or, ces couples ont fait le choix personnel d'une sexualité biologiquement inféconde, dont une infertilité implicitement choisie. Demander à la médecine de la procréation d'accéder à cette demande, c'est la détourner de son rôle originel de médecine réparatrice, qui contournait une infertilité médicalement constatée chez un couple homme et femme, pour en faire une médecine de convenance au service d'une minorité, femme homosexuelle ou seule, pour fabriquer des enfants à la demande. Des médecins eux-mêmes accompagnent et encouragent cette demande sociale qui reçoit, d'après les sondages, une large approbation dans notre société. Mais ni les lobbies, ni les experts, ni l'absence de fondement moral commun dans une société pluraliste et individualiste ne devraient abolir notre conscience morale, nous faire renoncer à rechercher le bien commun et une justice qui protège le faible de la loi du plus fort. Et dans ce cas-là, c'est l'enfant qui est le plus faible. L'accès à la PMA par ces couples de femmes est revendiqué au nom d'une autonomie procréative des femmes. Mais cette revendication d'autonomie individuelle dans ce domaine est contradictoire, opposée à l'intérêt de l'enfant et illusoire. Contradictoire car pour procréer, il faut un homme et une femme, ou au minimum leurs gamètes. Or, l'Agence de biomédecine française constate une pénurie de donneurs et la Belgique doit importer elle-même des gamètes pour répondre à la demande. Il est tout à fait illusoire de croire qu'un simple appel aux bonnes volontés augmentera le nombre de donneurs de gamètes, surtout avec la perspective d'une éventuelle levée de l'anonymat. L'augmentation de la demande créée par cette ouverture va renforcer une pratique contraire au principe de non-patrimonialité du corps humain, la marchandisation des gamètes. Elle est contradictoire aussi, car cette revendication d'autonomie demande paradoxalement à la collectivité de prendre en charge, y compris financièrement, des désirs individuels. Cette revendication de femme d'un droit à procréer de façon autonome sans homme est contraire à l'intérêt de l'enfant à avoir un père qui ne soit pas seulement biologique, mais réel. Cette revendication d'autonomie repose enfin sur une foi fallacieuse, au pouvoir de la biomédecine de fabriquer des enfants à la demande, alors que ce sont des techniques médicales lourdes, non dénuées de danger et qui bien souvent ne tiennent pas leurs promesses d'enfants. S'il est légitime que l'État n'entre pas dans l'intimité procréative des femmes et des hommes, il ne l'est pas de lui demander d'institutionnaliser la procréation d'enfants sans père et en plus de la prendre en charge financièrement. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres et le droit de l'enfant à avoir une famille. Alors, en ce qui concerne l'évolution des mentalités, un enfant quand je veux et comme je veux. L'allongement du temps d'études et de l'incompatibilité sociale entre maternité et carrière professionnelle provoque un retard de l'âge auquel beaucoup de femmes sont prêtes pour la maternité. Or, l'horloge biologique, elle, ne s'arrête pas et la fécondité baisse avec l'âge. De grandes entreprises aux USA encouragent déjà leurs employés à congeler leurs ovocytes, leur faisant miroiter la promesse trompeuse d'une fertilité juste reportée. Trompeuse, car cela ne veut pas dire que ces femmes auront des enfants au bout du compte. C'est pour ne pas favoriser cette pression sociale sur les femmes que la commission, le comité consultatif national d'éthique a refusé d'étendre la congélation ovocytaire à des indications autres que médicales. Nous remarquons cependant que cette autoconservation non médicale existe déjà en France pour récompenser les femmes qui donnent leurs ovocytes. Or, quand les donneuses récupèrent 2 ou 3 ovocytes après leur don, c'est insuffisant pour garantir une fécondité. Plus fondamentalement, nous ajouterons qu'il n'est dans l'intérêt ni des femmes ni de la société d'encourager des grossesses tardives. Cela soulève d'ailleurs la question de définir plus précisément le critère en âge de procréer, limitant actuellement le recours à la PMA aussi bien pour l'homme que pour la femme. Alors, la question qui est posée, c'est le désir de faire famille, de couple homosexuel ou de personne seule va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Nous constatons le désir de certaines personnes homosexuelles vivant en couple ou de femmes seules de faire famille en recourant à la PMA pour avoir un enfant. Nous affirmons qu'on demande trop souvent aujourd'hui à la venue d'un enfant d'être la pierre angulaire de la famille. C'est inverser l'ordre des choses. L'enfant doit pouvoir se construire à partir de l'engagement d'un homme et d'une femme dans une union stable qui crée le meilleur cadre où naître et grandir pour un enfant. Cet intérêt doit être protégé par le droit. Il me semble que cet argument-là est assez intéressant. C'est-à-dire que nous affirmons qu'on demande trop souvent aujourd'hui à la venue d'un enfant d'être la pierre angulaire de la famille. Alors que c'est plutôt le contraire qui devrait être considéré. L'argument du tourisme procréatif. Donc là, c'est la position officielle des évangéliques dans la contribution pour les états généraux de la bioéthique. L'argument du tourisme procréatif. On a utilisé l'argument financier pour défendre l'extension de la PMA au prétexte que l'interdiction en France entraînait un véritable tourisme procréatif, accessible seulement aux plus fortunés. Mais l'extension de la PMA transférerait simplement le poids financier sur la collectivité, pour répondre à un désir d'individu ayant fait un choix de vie personnel qui implique justement cette infertilité. La souffrance liée à ce choix de vie peut être réelle, mais ce n'est pas un argument justifiant que la société prenne en charge toutes les souffrances personnelles. Une telle extension de la PMA poserait un problème dans l'égalité de l'accès à la PMA et à son remboursement. Les membres du CCNE donc ont évoqué l'idée d'une prise en charge financière différenciée, suivant les cas, les revenus. Mais cela ne contreviendrait au principe d'égalité et d'universalité du remboursement de la sécurité sociale. On a aussi évoqué le fait que la fraude rendrait la loi inutile. Cet argument n'est pas éthique si l'on estime qu'il est juste d'interdire une pratique qui va contre l'intérêt de l'enfant et contre la marchandisation du corps humain par la vente de gamètes et des mères porteuses, alors il faut maintenir cette interdiction. Un pas décisif vers l'autorisation de la gestation pour autrui, c'est la question qui est posée. Même si le gouvernement actuel est opposé à la légalisation de la gestation pour autrui, l'ouverture de la PMA risque de constituer le premier pas sur une pente éthique glissante. Au nom du principe d'égalité, on voit mal comment on pourra encore refuser, à terme, à un couple homosexuel masculin le recours à la gestation pour autrui, vocabulaire édulcoré pour désigner une femme instrumentalisée comme mère porteuse. Nous touchons à un summum en matière de problèmes éthiques, car quoi qu'en disent ses partisans, il n'y a pas de GPA éthique. En effet, cette pratique repose sur la marchandisation du corps humain, sur la commercialisation du vivant, sur l'exploitation de la pauvreté et un véritable esclavagisme moderne par les exigences que les couples demandeurs imposent à la mère porteuse et la façon dont les intermédiaires exploitent ces femmes. Le seul moyen d'éviter ce dérapage éthique serait que la France prenne une position plus claire en faisant campagne pour une convention internationale interdisant au moins le trafic international du recours aux mères porteuses. Donc voyez là, il y a l'idée quand même de proposer des solutions aussi pour notre société, pour notre nation, et de ne pas être simplement dans la condamnation ou la prise de position, de se retrancher derrière des convictions chrétiennes. Je crois que c'est aussi l'interpellation qui nous est lancée à nous chrétiens, que nous soyons orthodoxes, catholiques, évangéliques, protestants ou autres. C'est de se dire, mais que pouvons-nous proposer en termes de croyants chrétiens dans cette nation et dans ce contexte-là? Alors, on a des prises de position, on a des convictions, il faut les affirmer, mais nous devons réfléchir aussi plus loin et nous interroger sur ce que nous pouvons proposer qui veille à ce que l'ensemble des paramètres soient pris en compte et que l'ensemble des individus soient pris en compte, pas que les parents ou les couples, mais aussi les enfants à naître. Et on voit que c'est un vrai questionnement et une vraie interrogation. Alors, conclusion donc de cette prise de position officielle des évangéliques. Nous, protestants évangéliques, nous sommes opposés à la fabrication d'enfants pour satisfaire des couples socialement stériles. Nous, protestants évangéliques, sommes particulièrement attachés au respect du mariage entre l'homme et la femme, qui est le socle de la vie sociale, comme en témoigne le fait que le premier des commandements dans la partie des 10 commandements concerne le prochain, est honore ton père et ta mère. Pour nous, l'enfant n'est pas un dû, ni même un droit, mais un don de Dieu à accueillir dans son altérité. Nous dénonçons comme illusoire, dangereuse et aliénante la foi moderne en une technique toute puissante pour réaliser tous nos désirs. Nous constatons l'aspect déshumanisant de la PMA quand elle brise les liens naturels, affectifs, sociaux ou généalogiques qui unissent un enfant à ses parents. Les protestants évangéliques ne sont pas favorables à l'intrusion d'un tiers dans le couple par des gamètes. Dans des gamètes, pardon. L'anonymat des donneurs est aujourd'hui très contesté au nom du droit de l'enfant à l'accès à ses origines. Il faut reconnaître que l'anonymat préserve le caractère médical de la PMA, alors qu'avec un donneur connu, on entre dans une pluriparentalité biologique et sociale complexe. Il faudrait à la fois entendre le besoin d'accès à leurs origines des enfants issus de donneurs et prendre en compte les déséquilibres que pourrait engendrer une levée de l'anonymat de ces donneurs. C'est pourquoi nous sommes pour donner un accès à leurs origines aux enfants issus d'un don anonyme de gamètes. Donc intéressant de voir qu'il y a cette proposition d'avoir accès à la connaissance de leurs origines pour ces enfants issus d'un don anonyme de gamètes. Si nous ne sommes pas opposés à une assistance médicale pour des couples à l'infertilité médicalement constatée, nous sommes opposés à la fabrication d'enfants médicalement assistés et socialement institués pour satisfaire le besoin d'adultes qui ont fait le choix de vie personnelle d'une sexualité naturellement inféconde. Nous pensons que c'est à tort que l'actuelle loi française qui réserve la PMA aux couples hommes et femmes en âge de procréer est présentée comme une injustice, car la différence des sexes n'est pas une discrimination sociale. Cette liberté, entre guillemets, serait gagnée au profit de ceux qui crient le plus fort et au détriment du droit des plus petits et des plus vulnérables. Voilà, c'était un texte assez long, assez complet, mais qui représente en fait la prise de position des évangéliques dans leur majorité concernant ces questions-là. Maintenant, c'est une prise de position. Et comme je vous l'ai dit, je pense que nous sommes aussi appelés et invités à avoir une attitude qui cherche à comprendre. cherche à comprendre les données sociales dans lesquelles, auxquelles nous sommes confrontés et dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et pour ceci, j'aimerais revenir simplement aux Écritures bibliques aussi également en prenant l'attitude du Christ dans deux situations très précises. La première que nous connaissons, c'est lorsque le Christ rencontre la femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Le Christ, fils de Dieu, dont toute son humanité est fatiguée du voyage et est assis au bord d'un puits. Et là, déjà, va franchir des barrières sociales puisqu'il va s'adresser à une femme. Il va s'adresser à une femme samaritaine. Et la femme samaritaine ne va pas s'empêcher de lui dire, mais les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc on voit que le Christ lui-même est allé au-delà de certaines barrières sociales et même religieuses qui étaient imposées et qu'il a osé aller vers elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il savait quelle était sa vie, mais qu'au lieu de lui tomber dessus, entre guillemets, en lui disant, oh là là, c'est terrible ce que tu as vécu une vie de pécheresse parce que tu as eu cinq maris et celui que tu as n'est pas ton mari. En fait, il n'a pas du tout procédé de cette manière-là. Il lui a posé des questions. Et ces questions qu'il lui a posées, en fait, mettaient le doigt sur le fond de la souffrance qu'il y avait chez cette femme, qui était un besoin criant d'amour. Et Jésus lui parle d'une eau qui va vraiment la désaltérer. Elle comprend pas, elle pense que c'est l'eau du puits, elle ne sait pas comment il va aller faire pour la puiser. Mais en fait, Jésus insiste et veut l'amener à comprendre qu'en fait, si elle a eu ce genre de vie en passant d'un homme à l'autre, c'est que c'était pour tenter d'essayer de d'étancher ce besoin d'être aimé. Et quand il lui dit cette fameuse phrase, va chercher ton mari. En fait, il l'amène à confesser elle-même que bah, elle n'a pas eu, enfin, elle n'a pas de mari, elle en a eu cinq, mais que celui qu'elle a n'est pas son mari. Mais dans aucune des phrases qu'il lui dit, bon, va mettre ta vie en règle et maintenant quitte ou alors marie-toi avec ton compagnon actuel. Enfin, c'est assez surprenant quand on relit le texte. Et souvent, on cite dans nos milieux évangéliques ce texte comme étant un formidable outil d'évangélisation, mais rien ne nous dit dans le texte que la femme samaritaine est devenue disciple du Christ. Il nous est dit qu'elle est allée dire dans le village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais on n'en reparle pas dans la suite des évangiles, en tout cas, elle n'est pas mentionnée. Si on s'en réfère à Nicodème, par contre, lui qui est venu voir Jésus de nuit, tout pharisien qu'il était, il n'était pas très courageux, il est venu voir Jésus de nuit pour parler avec lui, les Écritures nous disent qu'il est devenu disciple de Christ, puisqu'on en reparle après. Donc vous voyez, dans ces rencontres que le Christ a avec des individus, il n'y a pas de formule type ou de manière type d'agir. Jésus est avant tout à l'écoute il accueille la personne, il est à l'écoute de ce qu'elle peut exprimer, et il discerne avec l'Esprit de Dieu le fond comment dire, de la souffrance de la personne, ses interrogations, ses questionnements, et il va l'amener par des questions à prendre conscience de cette souffrance ou de ce qu'il vit au fond de lui-même. Et puis le dernier exemple, c'est l'exemple de la femme adultère. Quand même. Hein, quand même. Elle n'était pas dans les clous, celle-là non plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'aime.
Non, non plus.
Mais voilà, mais on est d'accord, j'allais venir. C'est que là aussi, on voit le système religieux a fait que ils ont amené la femme. Mais Lévitique nous dit que les deux auraient dû être là, en fait. Et c'est tout à fait intéressant, là aussi, de voir l'honnêteté des Écritures. Où les religieux arrivent avec déjà mettant la femme au milieu, déjà avec toute l'humiliation qu'il pouvait y avoir et tout cela. Et je trouve absolument spectaculaire la manière dont le Christ s'y prend pour gérer cette situation. Et j'aime bien sa manière de dessiner sur le sol, de ne rien dire et d'interroger là aussi ceux qui l'ont amené pour qu'elle soit lapidée. Hein. Et Jésus dit, mais que le premier d'entre vous qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Et il se tait, il dessine par terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit, dessiné, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un silence. Et que ce silence a été profitable parce que la conscience de chacun a commencé à l'accuser. Et qu'ils se sont tous retirés. Et que finalement, Jésus se retrouve seul avec cette femme-là. Et il lui pose aussi cette question. Et puis, en fait, il lui dit cette phrase formidable, va. Va et ne pêche plus. Et je crois que c'est notre mission aussi en tant que croyants, c'est d'être dans cette posture du Christ, dans les évangiles, qui nous parle de rencontres individuelles. Et oui, nous avons des positions officielles, oui, nous avons des convictions sur lesquelles nous ne revenons pas. Je dirais en tant qu'évangélique, je rejoins ce qui est dit là. Mais en même temps, j'ai aussi ce cheminement face à la réalité des personnes que je rencontre. Je ne suis pas face à des numéros. Je ne suis pas face à des individus qui sont des horribles pécheurs. Je suis face à des hommes et des femmes qui ont fait des choix de vie parce qu'ils ont leur cheminement personnel. Et ma responsabilité, c'est d'accueillir ces personnes-là, d'essayer de les entendre d'abord, de les écouter, et puis d'essayer de proposer des solutions ou pas, ou simplement de proposer des perspectives. Qu'allons-nous faire? Allons-nous imposer à des personnes qui sont en train de mettre au monde un enfant par gestation pour autrui ou par procréation médicalement assistée, dans des couples homosexuels, de procéder à des avortements? Voyez, on peut aller jusqu'à une forme de logique jusqu'au boutiste dans ces cas-là. Mais je ne pense pas que c'est ce que le Christ nous invite à faire. Donc, une vraie complexité que toute cette réalité de la PMA, de la GPA. Moi, j'ai beaucoup de questions, à vrai dire. Beaucoup de questions, et ça m'amène à beaucoup d'humilité, parce que nous sommes dans cette société, comme je le disais au début, qui est complexe et qui va le devenir de plus en plus, parce que nous essayons d'être ces lumières et ces phares dans la nuit, dans notre société. Nous ne sommes pas la majorité, forcément. Nous sommes dans une société qui se déchristianise de plus en plus. Je fais le constat aujourd'hui que chez beaucoup de jeunes, quand je parle de Jésus, on ne sait pas trop qui c'est en fait. Pour nous, c'est évident, mais pour toute une génération qui est là et qui monte, ce n'est plus le cas. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Comme le disait quelqu'un, qu'est-ce que la vérité? En fait,
Qui est la vérité?
c'est pas simple. Et pourtant, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, cette quête, elle est là aussi. Nous sommes face à enfin, tout ça me pousse à revenir aux Écritures, en fait.
Il a dit aussi, la vérité germera de la terre.
Il a dit beaucoup de choses concernant la vérité. Donc, c'est à nous d'accueillir cette vérité en se disant, mais Seigneur, conduis-nous dans la vérité. L'Esprit de Dieu nous a dit, Jésus a dit, l'Esprit vous conduira dans la vérité. Donc voilà, un vrai défi, en quelques minutes, de proposer, comme pour ma collègue orthodoxe, quelques prises de position, mais en fait, je trouve que ça soulève beaucoup plus de questions aussi sur la manière de gérer ces choses-là. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des précisions?
Monsieur, avant de nous lire des évangiles, vous aviez lisé un papier sur lequel il y avait marqué ce que l'Église évangélique permet et permet pas. En ce qui concerne les couples de personnes homosexuelles. Et il y a une phrase qui. Je voudrais vous relisiez la phrase, c'est à la fin de votre papier. Personnes qui ont choisi d'une sexualité inféconde. Voilà la phrase. Vous pourriez la relire?
Oui, donc voilà, je l'ai. Nous sommes opposés à la fabrication d'enfants médicalement assistés et socialement institués pour satisfaire le besoin d'adultes qui ont fait un choix de vie personnelle d'une sexualité inféconde.
Donc, des adultes qui ont fait le choix
De vie
de vie
personnelle.
Je n'aime pas cette phrase. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il s'agit des personnes qui sont homosexuelles. Mm-hmm. Des femmes, on parle là, des femmes homosexuelles.
Mais hommes aussi.
Des hommes peut-être, enfin, je...
C'est sûr.
On va dire PMA pour les femmes et en couple. Mais une personne n'a pas choisi déjà d'être homosexuelle.
C'est une question.
Ah, c'est une question. Je pense que...
Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là.
N'est pas d'accord. Bon, moi, personnellement, je pense que une personne, les personnes qui sont homosexuelles, elles n'ont pas choisi. C'est un fait. Donc, je pense, là, il y a beaucoup à faire, parce que je pense là que elles n'ont donc pas... Si une personne est homosexuelle, eh bien, ces personnes-là sont solidaires souvent entre eux. D'accord ? Elles forment une minorité. Il y a peut-être 10 personnes, des personnes dans le monde qui sont homosexuelles. Donc, c'est une minorité. Et elles sont. Ces personnes-là sont solidaires les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et donc. Elles n'ont pas choisi, si elles choisissent de se mettre ensemble, deux personnes homosexuelles, c'est parce que sans doute une personne qui est hétérosexuelle ne va pas se mettre avec une personne homosexuelle.
Si je peux me permettre, quelle était votre question ?
Mais la question, c'est d'entendre cette phrase.
Moi, je ne fais que vous retranscrire une prise de position.
Comme si c'est, elles ont choisi... De vivre ensemble et que leur sexualité est inféconde. C'est vrai, mais elles n'ont pas choisi. Voilà. Je trouve que ça c'est sans charité vis-à-vis des personnes homosexuelles.
Vous confondez deux choses.
Merci.
On va expliquer. Je voulais juste poser une question. Est-ce que pour l'Église évangélique, la personne commence au moment de la conception.
Oui.
Est-ce que la même conception que
Oui. C'est pour ça qu'il y a des prises de position claires.
Okay. Merci.
Oui, mais madame, je pense que vous reliez deux choses bien distinctes. Le fait d'être homosexuel, à mon avis, à ma connaissance, personne ne le choisit. Par contre, vouloir avoir un enfant avec une autre personne homosexuelle, ça c'est un choix. Et ça, par définition, c'est un couple infécond.
C'est ça, infécond. Oui, mais ils n'ont pas choisi.
Oui, c'est bien. C'est une question entre les voir.
C'est effectivement, ça pourrait être un débat, mais ce n'est pas celui que ce soit. Est-ce que les personnes homosexuelles ont choisi de l'être ou pas? Je crois que la science s'est prononcée à ce sujet. Comment?
C'est pas le fait d'être
homosexuel. Oui,
c'est pas ça. Voilà. C'est vouloir avoir un enfant avec une personne du même sexe.
D'autres questions? Excusez-moi de vous couper la parole. Oui, Dominique.
Non, c'est pas. Moi, je voulais juste. Je voulais juste dire que j'avais lu le petit livre des évêques, le petit manifeste qui avait été vendu ici. Et finalement, comme les évêques de l'Église catholique, avaient à peu près la même position.
Oui,
non, mais parce que la fois dernière, on avait eu le débat avec
Jean-François Collonge.
Voilà, c'était un peu plus. Voilà,
effectivement. Mais ça va nous faciliter notre travail de synthèse, puisque tout le monde est d'accord. Ça va être beaucoup plus facile. Dominique.
Tous les deux, vous avez dit qu'il fallait éviter au maximum les embryons surnuméraires. Donc on comprend bien effectivement le problème que ça pose. Alors peut-être que ma question est technique, mais est-ce qu'il y a un moyen d'éviter les embryons surnuméraires ?
Normalement, en fait, ce que je connais à mon niveau, la pratique en fait d'apparition des embryons surnuméraires est mise en place parce que toute la technique de réception des spermes et des ovules, la mise en place est difficile et lourde. Et donc pour éviter les techniques trop lourdes pour l'homme et pour la femme aussi bien, donc, et pour s'assurer que l'embryon sera bon, si vous voulez, ils en produisent plusieurs. Par contre, là, les pays diffèrent. Par exemple, en Allemagne, la production d'embryons est au maximum, il me semble, la dernière quota, c'était 4. Et tous les 4 ont été infécondés. Oui, et donc implantés. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que il y a des grossesses qui... Vous avez des triples, des quadruples, donc même. Voilà. Et en Allemagne, c'est vraiment strict parce qu'ils ont tout l'héritage historique avec les nazis. Donc là, les embryons surnuméraires ne sont pas autorisés. La pratique tout à fait différente, c'est en Grande-Bretagne, où le nombre d'embryons surnuméraires est extrêmement important. Et alors là, c'est la raison pour laquelle, en Grande-Bretagne, les recherches sur les embryons sont les plus évoluées parce que l'État donne l'autorisation de faire des recherches sur des embryons. Bien évidemment, les protocoles sont lourds, mais la recherche est présente et c'est là qu'en fait le plus grand développement de génie génétique a été fait. Parce que voilà, l'existence, si vous voulez, du matériel est là.
Mais c'est important parce que cette question pose la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait avec tous les embryons surnuméraires en fait. Et comme ça a été souligné, mais pour nous chrétiens, la vie commence à la conception en fait. C'est ça qui n'est pas défini. Donc c'est des êtres vivants congelés, mais jusqu'à quand
voilà. Oui, ça ouvre la question aussi sur la temporalité d'un être humain. Enfin, il est conçu, existe, mais existe de quelle façon, de quelle manière ça.
D'autres questions? Bon, avec,
Je peux faire juste une remarque. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez présenté ce passage de l'assistance médicale à la procréation. Comment, lentement, dans nos médias et dans les débats, ça a glissé vers la procréation médicalement assistée. Donc, c'est la procréation qui devient importante, et donc c'est elle qui pointe l'intérêt, et non plus l'assistance qui a été mise en place au début pour vraiment assouvir un besoin audible. JAPA, c'est la conséquence logique, automatique, si on veut respecter la fraternité, l'égalité.
D'autres questions? Eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier. En plus, on a un respect du timing parfait. Puisque Mme Ludovic, vous devez prendre un train dans les minutes qui suivent et sauter dans la voiture de Patricia pour courir à Creil.
C'est la temporalité qui vous rappelle.
Oui, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Merci pour la clarté de votre exposé, présenté de façon très différente. Et puis, le constat que finalement, les deux confessions disent à peu près la même chose. Et c'est certainement pas par hasard. Toutes les réflexions censées aboutissent.
Comment ça, c'est pas par hasard?
Ben non, c'est pas par hasard, parce que quand on réfléchit à cette problématique sous l'œil du Christ et au regard de notre foi, ben on arrive à peu près aux mêmes conclusions.
Et je pense qu'effectivement, ça ouvre tout un nouveau volet et donne le souffle pour l'écuménisme. En tant que tel, ça change complètement la donne. En fait, avant, on partait des choses qui nous divisent.
C'est ça.
Et là, en étant confronté à des questions sociétales, on est censé repenser notre foi. On ne peut pas en passer à côté, mais la repenser ensemble. Et peut-être que ça donnerait des ouvertures qui vont nous rapprocher. Donc,
Et notamment, je termine avec ça, dans l'accueil de tous ces enfants qui sont nés dans ces contextes-là. Je crois que nous avons un rôle, mais majeur, dans les années qui arrivent, parce que nous allons être confrontés à ces interrogations, à ces mal-êtres qui vont être là, parce qu'ils sont bien présents. Et c'est toute cette question-là qui nous est posée, comment nous allons les accueillir et leur donner un sens pour qu'un jour ils puissent aussi dire le Notre Père, qui est aux cieux. En fait, c'est vraiment cette paternité de Dieu qui va être, je crois, le moyen de répondre à ce manque de père, peut-être qu'il va y avoir criant d'origine, en fait.
Merci. C'est pas encore tout à fait fini. J'ai un certain nombre d'informations à vous donner. Les enregistrements des deux intervenants, d'ailleurs, voilà, si je la fiche, je sors pas mieux.